Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Dimanche à toutes et à tous et bonne journée du patrimoine et bon appétit si vous êtes à table. C'est le retour de votre émission favorite sur l'astronomie, À toi les étoiles. Et c'est Franck qui est avec vous. On se retrouve pour une nouvelle saison tous les troisièmes dimanches de chaque mois de 13h à 14h pour découvrir les secrets et merveilles de l'univers. Vous le savez, chaque été je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, où l'émission se délocalise pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Il n'y a pas eu d'émission en juillet et en août pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais en ce mois de septembre, eh bien, nous sommes encore en été pour quelques jours. Et pour cette seule et unique émission de cet été 2025, eh bien, aujourd'hui je ne suis pas très loin de la région parisienne puisque je suis en Île-de-France, plus particulièrement dans l'ouest de l'Île-de-France, dans le département des Yvelines, dans la ville de Triel-sur-Seine, et je suis au Parc aux Étoiles. J'avais déjà eu l'occasion, il y a de cela plusieurs années, de vous faire découvrir le Parc aux Étoiles, mais il y a eu des changements depuis, et donc je vous propose de redécouvrir les nouveautés de ce Parc aux Étoiles. Je suis là dans la forêt yvelinoise, dans le Parc aux Étoiles, où il y a plein de végétation autour de moi, et dans un instant, je vais rejoindre Guillaume Froment, qui sera mon guide durant toute cette émission. Je suis en compagnie de Guillaume Froment, médiateur scientifique au Parc aux Étoiles. Bonjour, merci de m'accueillir ici.
Bonjour, merci à vous d'être monté jusqu'à l'Outil pour venir nous voir au Parc aux Étoiles.
Racontez-nous l'histoire du Parc aux Étoiles.
Alors le Parc aux Étoiles, en fait, ça a commencé par un propriétaire de carrière, parce que en dessous sous nos pieds, c'est vraiment un gruyère, il y a des carrières de partout. Et il y avait un grand propriétaire qui s'est fait construire du coup sa maison. Alors c'est peut-être pas un château non plus, mais ça fait une grande maison bourgeoise. Ça faisait plus de 70 hectares la propriété, c'était assez grand. Et avec le temps, bah, ça a enchaîné les propriétaires. Ça a été une base d'avions. Il y avait des hangars, il y avait des piscines. Il y a eu plein de vie jusqu'à ce que la ville de Triel rachète le terrain. Et là, ça a eu une vie plutôt associative. Donc, il y avait un club de théâtre qui venait. Et il y avait, du coup, Jean-Paul Trachier, hein, le premier président, du Parc aux Étoiles, qui était intéressé par ce terrain, parce qu'on est un peu en altitude. On est un peu loin des lumières, surtout à l'époque, donc dans les années 70. Et il va commencer à s'installer du matériel d'astronomie pour les astronomes amateurs. Ça va devenir le Centre Astronomique des Yvelines, le CAY. Et bah, l'astronomie, ça intéresse les gens. Au début, c'était juste des amateurs, des passionnés. Et la nuit, ça intéresse les gens qui sont venus poser des questions. Et c'est développé du coup à côté, en 89, le Parc aux Étoiles. Donc vraiment la branche qu'on appelle la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique. Le club et le Parc aux Étoiles ont fait leur vie dans le même bâtiment au fur et à mesure avec le temps. Et le Parc aux Étoiles a un peu changé de propriétaire. Il est passé de la ville à une communauté d'agglomération jusqu'en 2016, où là, le Parc aux Étoiles fait partie des équipements culturels de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Donc la communauté urbaine gère plusieurs équipements, un théâtre, une médiathèque, un conservatoire, et du coup le Parc aux Étoiles en fait partie. Donc c'est ce qu'on appelle un CCSTI, c'est un label, mais Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, au même titre que la Cité des Sciences à Paris, le Vaisseau à Strasbourg, il y en a plein partout en France. C'est un label national et on a un devoir de parler de science, d'être ressource pour les universités, pour plein de projets artistiques, culturels, tout ça.
Guillaume Froment, on est là dans la salle de conférence. Vous avez aussi d'autres installations qu'on va aller visiter tout à l'heure. Quand Jean-Paul Trachier a lancé le Parc aux Étoiles, il est parti de zéro, il est parti d'une feuille blanche?
Alors du coup, il est parti d'un espace qui n'était pas vraiment fait pour ça à la base. Et au fur et à mesure, différents espaces se sont créés. Donc ici, l'espace muséographique, donc, qui est juste à côté du château, il a été construit, alors j'ai pas réussi à retrouver la date exacte, mais ça va être dans les années 90, donc pour avoir un espace de musée où on pouvait faire des visites, ce qui ressemble plus à ce qu'on fait d'habitude en médiation scientifique. Il y a cette salle de conférence qui a été vraiment faite pour les conférences à la base, mais avec le temps, bah, qui s'est transformée aussi un peu en salle de spectacle. Aujourd'hui, on a des spectacles qui viennent ici. Alors, on a une petite salle pas vraiment faite pour les spectacles, mais on arrive toujours à trouver des compagnies qui s'adaptent à nos caractéristiques. Donc, on a le musée, on a un chemin d'exposition extérieure qui est venu s'ajouter. Donc avec des vitrines en extérieur qui sont accessibles à peu près tout le temps. Donc on part de juste une maison et au fur et à mesure, ça a été rajouté plein de petits morceaux à droite à gauche.
Pour devenir ce que le parc aux étoiles est aujourd'hui. On va aller visiter justement cet espace scénographique, Guillaume Froment, et vous allez nous commenter comme si on était des spectateurs lambda.
Alors oui, c'est parti. Notre musée, il est un peu spécial. C'est pas un musée où on a des choses qui sont écrites. Hein, c'est que du visuel et du médiateur et ou de la médiatrice qui va faire la visite. Et une des spécificités, c'est que notre musée, il est dans le noir.
C'est un peu normal, hein, je dirais, dans l'astronomie, d'être dans le noir.
Effectivement, c'est plutôt pratique. Notre première salle, c'est le sas aux étoiles. En fait, c'est une grande pièce dans le noir avec juste des petits trous dans le plafond d'où la lumière sort. C'est là pour représenter en fait ce qu'on voit dans le ciel nocturne. Donc, au début, on a juste une petite lumière histoire d'adapter nos yeux, parce que nos yeux, hein, quand on est dans le noir directement, on voit rien du tout. Et puis, ça permet de représenter en fait la pollution lumineuse qu'on a aussi au parc aux étoiles quand même, qui est assez présente, qui va nous empêcher de bien voir les étoiles. Mais quand on l'éteint, on va mieux voir les étoiles. Et ce qu'on voit très vite dans cette salle, c'est la différence de couleur des étoiles. Alors, c'est un peu exagéré par rapport à la réalité, mais on en a des plus chaudes, des plus froides. Donc, les plus chaudes vont être plutôt bleues et les plus froides vont être plutôt rouges, à l'inverse du robinet. On voit aussi qu'elles scintillent. Donc, leur lumière va augmenter, baisser. Et ça, c'est une caractéristique des étoiles. Par exemple, les planètes, qui est un autre type d'objet qu'on peut voir dans le ciel, bah là, ça ne va pas scintiller. Donc, dans cette salle, on peut parler de tous les objets qu'on peut voir, histoire de ne pas se tromper et penser à avoir vu un ovni. Bah, ça peut être un avion, ça peut être une comète, ça peut être une étoile filante, on peut voir plein de choses. Donc, ça, c'est un peu la première partie. Et une fois que les yeux sont bien habitués, bah, on passe à la suite dans le couloir de l'astronomie.
Je vous suis donc dans ce couloir de l'astronomie, en compagnie de Guillaume Froment, qui est médiateur scientifique.
Donc là, notre musée, il est un peu spécial parce que du coup, on n'a pas de la lumière comme dans un musée normal, on a de la lumière noire. Donc c'est une lumière un peu spéciale qui va réfléchir très bien sur certains pigments. Et donc, en fait, tous nos objets dans notre musée sont peints avec une lumière spéciale qui va vraiment ressortir. Et donc moi, comment je fais ma visite? Parce que du coup, chacun fait un peu la visite à sa sauce. Mais moi, je commence avec la grande échelle qu'on a à notre gauche. C'est ce qu'on appelle l'aniakea. C'est la plus grande structure qui ressemble un peu à une structure hein, qui a une sorte de cohérence ensemble de l'univers qu'on connaît. Hein, tout est relativement lié avec la gravité. Hein, la gravité, c'est deux objets qui sont attirés par leur masse. Et bah, en fait, on a plein de galaxies qui sont plus ou moins attirées ensemble. Ça fait un peu comme un grande toile d'araignée un peu qui va dans toutes les directions. Et du coup, on va retrouver la matière qu'on connaît, donc les galaxies et les étoiles à l'intérieur, dans ces grands fils d'araignée. À l'intérieur, en fait, si on zoome vraiment beaucoup, beaucoup, ce qu'on va voir, c'est que ces grandes toiles sont composées de galaxies. Donc après, des galaxies, on en a plein de types, hein. On a ce qu'on appelle les galaxies spirales, avec un centre très lumineux. Hein, très blanc, et deux bras en forme de spirale qui vont partir du centre de cette galaxie. Ça, c'est notre galaxie ressemble à une galaxie spirale. On en a des elliptiques qui n'ont pas de bras, alors ça va dépendre de leur rotation, mais on a plein de types différents. Et le dernier type, un peu, c'est les galaxies irrégulières, alors qui ne ressemblent pas vraiment à grand-chose. En général, elles sont issues de la fusion entre deux galaxies, parce que les galaxies, hein, elles sont attirées par la gravité, vu qu'elles ont une masse, du coup elles s'attirent, et au bout d'un moment, bah, elles peuvent se rentrer dedans. Elles vont pas, ça répète, un grand choc, parce que les galaxies, c'est composé de plein de petites étoiles très éloignées les unes des autres. Du coup, elles vont juste se croiser, hein, ces deux galaxies qui vont juste s'entrelacer, elles vont se déformer par l'effet de la gravité, mais il n'y a pas d'étoile qui va se rentrer dedans. Les étoiles, elles sont vraiment trop éloignées les unes des autres. C'est ce qui va arriver à notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, on a l'habitude de voir un grand chemin dans le ciel, hein. Alors, il faut avoir un bon ciel pour la voir. Mais du coup, ce grand chemin dans le ciel, si on regarde depuis l'extérieur, bah là, ça va ressembler plutôt à un disque. Un disque. Alors nous, on est vraiment un tout petit point sur ce disque. Hein, on voit à peine sur notre représentation de la Voie lactée. Et on est un peu à l'extérieur. Et du coup, la Voie lactée, hein, qui est une galaxie à peu près normale, et bah, est attirée par la galaxie d'Andromède, qui est notre voisine, qui est une autre galaxie qui est relativement bien visible dans le ciel, pareil, la nuit. Et par exemple, la galaxie d'Andromède, elle fait deux fois la taille d'une galaxie. Donc on a une galaxie plutôt normale. C'est juste que nous, bah, on ne peut pas la voir en entier, le beau disque, parce qu'il faudrait aller à l'extérieur. Et ça, c'est bien trop loin. Hein. Nous, on arrive à peine à sortir du système solaire.
Et c'est ça, donc on a devant nos yeux, différentes galaxies, comme vous l'avez expliqué, notre galaxie de la Voie lactée, et ce petit point-là, en fait, c'est notre système solaire.
Alors, c'est même ce petit point, il est même 100 fois plus grand que ce qu'il devrait être.
D'accord.
En fait, on réalise très vite que c'est impossible de voir le Soleil, et c'est même pas le Soleil, c'est le système solaire. Donc, c'est le Soleil et tout ce qui tourne autour. Donc, en fait, en ayant une image d'une galaxie, on est incapable de voir une étoile. Hein. À part en zoomant, en fait, on n'arrivera jamais à prendre en photo directement une étoile, par exemple, de la galaxie d'Andromède. On arrive en trichant un peu, mais c'est vraiment très compliqué. C'est assez récent. Et en face de notre Voie lactée, on trouve un type d'objet qu'on peut retrouver en fait au centre d'une galaxie. Ici, on a un trou noir. Alors, un trou noir, c'est dur à représenter, parce que un trou noir, c'est un objet dont la lumière ne peut pas s'échapper. Hein ? La lumière, ça va très très vite, mais pas assez vite pour s'échapper d'un trou noir. Hein ? Par exemple, si on va assez vite sur Terre, on peut s'en échapper en utilisant une fusée. On atteint ce qu'on appelle la vitesse de libération, et hop, on fait des tours autour de notre planète. Par contre, un trou noir, si on va trop proche, même en allant à la vitesse de la lumière, donc plus rapide possible, on n'arrivera quand même pas à s'en échapper, parce que sa masse est gigantesque et concentrée en un tout petit point. Du coup, comment on repère ça ? Eh bien, en fait, on va voir la matière d'une autre étoile qui va tourner autour, hein, qui est assez loin pour ne pas être aspirée, on va dire, et qui va former ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc, c'est vraiment un disque. Et ça ressemble un peu, en fait, aux images qu'on a eues assez récemment de trous noirs. Hein, ça fait juste un cercle lumineux. Mais on a de très bonnes représentations, par exemple, dans le film Interstellar.
Et sur votre disque d'accrétion, donc on voit cette étoile, et il faut s'imaginer qu'on a de la matière qui part vers ce trou noir et qui tourne donc autour de ce trou noir aspiré. Quoi.
Oui, la gravité va vraiment arracher la surface d'une étoile, par exemple, qui va passer un peu trop proche. La pauvre, elle va se faire un peu aspirer. Mais un trou noir, ça n'apparaît pas comme ça. Hein, un trou noir, ça peut venir d'une étoile. À la fin de sa vie, les étoiles, elles vont atteindre une fin. Et à la fin, il peut y avoir plusieurs scénarios. Alors, les trous noirs, c'est vraiment pour les étoiles qui sont gigantesques, bien plus grandes que le Soleil. On va dire jusqu'à 20, 30 fois, 40 fois la taille du Soleil. Hein, pareil, comme notre galaxie, le Soleil, c'est une étoile assez banale, assez normale. Hein, pour expliquer un peu ça, on parle de la vie d'une étoile. Alors, au début, en fait, on va avoir un grand nuage de gaz. Hein, c'est des images qui sont assez connues, par exemple du télescope Hubble. On voit ce qu'on appelle les piliers de la création. Ça fait des grands nuages de matière. Et au bout d'un moment, ce nuage de matière, il est tellement lourd qu'il va s'écraser et former une grosse boule de gaz.
Qu'on a représenté là sous les yeux.
Du coup, ouais, ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse. Et du coup, à l'intérieur, vont se former plusieurs étoiles. C'est pour ça que des fois, on a des groupes d'étoiles qui restent ensemble. Et du coup, à l'intérieur, tout va tellement être compressé qu'on va pouvoir commencer à avoir de la fusion d'atomes. Donc en fait, on a des éléments qui sont tout petits, qui sont poussés tellement fort les uns contre les autres, qui vont former un élément plus gros. Ça, c'est la fusion, et ça déploie énormément d'énergie. Hein ? On a une petite perte de matière qui va se transformer en énergie. C'est le fameux E, énergie, égale MC2, masse, la masse du coup qu'on a perdue, qui se transforme en énergie. Donc ça rayonne, c'est ce qui va faire une autre étoile, et au bout d'un moment, notre étoile ne va plus avoir de petits éléments à fusionner. Il va lui rester que des gros éléments et elle ne va pas arriver à les fusionner. Du coup, si la fusion s'arrête, du coup, on va avoir l'énergie qui va s'arrêter, hein, et notre étoile va finir par s'effondrer un peu sur elle-même. Alors là, à partir de ce moment-là, ça va dépendre de la masse de notre étoile. Pour le Soleil, il va refroidir très fort. Et un objet qui refroidit, il va devenir plus rouge, en tout cas pour une étoile, et il va aussi gonfler. Le Soleil va gonfler, il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, va gonfler au point que la Terre sera sûrement à l'intérieur du Soleil. Donc on aura intérêt à quitter le Soleil d'ici là. Mais bon, là le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie, il a consommé la moitié de son carburant, il lui reste encore 5 milliards d'années. Hein. On est large.
On est large.
Et du coup, il va tellement gonfler qu'au final, il va rester que la structure extérieure, donc la surface, qui va former un grand cercle. Et au centre, donc c'est ce qu'on voit à notre droite, donc un grand cercle de lumière un peu coloré. Et au centre, un tout petit point lumineux, c'est l'étoile. Une étoile morte, en fait, qui produit quasiment plus de lumière. C'est vraiment ce qui reste de notre étoile. Après, la matière va aller dans tous les sens et va peut-être participer à la formation d'une nouvelle étoile et d'un nouveau système avec des planètes autour. En fait, c'est ce qui s'est passé avant notre arrivée sur Terre. En fait, la matière qui nous compose, hein, elle vient d'anciennes étoiles qui ont expulsé leur matière dans tous les sens et qui nous ont formé, nous. La fameuse phrase, on est tous des poussières d'étoiles.
C'est ça. Guillaume Froment, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite.
Laissez-moi vivre comme je veux. Mes problèmes sous mon soleil bleu.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Retour ici au Parc aux Étoiles pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que c'est la formule de l'été, la seule de cet été 2025. Je suis aujourd'hui à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, en Île-de-France, en compagnie de Guillaume Froment, qui est médiateur scientifique. On poursuit cette visite.
Alors du coup, ici on a des amas. Donc je vous disais que les étoiles se forment un peu toutes ensemble dans une grande nébuleuse, dans une grande réserve de matière. Et du coup, on va avoir plusieurs étoiles qui vont se former. Alors on a différents types d'amas qui sont plus ou moins jeunes. Les amas globulaires qui vont former une grosse boule, hein, qui sont beaucoup plus compactes. Et des amas ouverts, hein, où on voit plus d'étoiles. Donc ici, on a les deux qui sont présentés.
Effectivement, tout ce rassemblement d'étoiles et qui ressemble pour les connaisseurs un peu à M13 ou d'autres objets de Messier.
Là, on a les stars un peu de l'astronomie. Juste après, on a les constellations. Alors la plus connue, c'est clairement la Casserole, qui est qu'une toute petite partie de la constellation de la Grande Ourse, hein, les 7 étoiles les plus brillantes. Mais cette constellation ne s'arrête pas ici. Hein, on a d'autres étoiles qui peuvent la rejoindre pour former la Grande Ourse en entier. Et en face, on a Cassiopée, le fameux W, hein, qui sont présentés un peu en trois dimensions. On voit que toutes les étoiles, alors c'est pas exagéré, c'est pas la bonne échelle, mais on voit que toutes les étoiles sont pas à la même distance les unes des autres. Si on se décale un peu, on voit que elles sont pas juste toutes à la même distance que nous. Il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont plus proches. Du coup, si on se décale un peu, on voit que ça forme plus vraiment un W. Et des fois, de temps en temps, on raconte les histoires qui vont avec la mythologie, hein, la mythologie grecque dont sont issues ces constellations. Donc on adapte nos histoires en fonction des âges, c'est toujours sympa, ça permet de faire une petite pause. Alors là on fait un petit saut.
Oui.
Donc là on arrive au système solaire, donc on voit que tout est représenté, du Soleil jusqu'à Pluton. Alors Pluton fait toujours partie du système solaire, mais c'est plus une planète. Mais à l'époque où ont été faites ces vitrines, Pluton faisait partie des planètes, du coup elle est bien intégrée dans cette vitrine. On voit le Soleil et les planètes qui suivent, les quatre petites, les planètes rocheuses, une petite ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes rocheuses des planètes gazeuses, bien plus grandes, les géantes gazeuses même. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas à l'échelle. Hein. Le Soleil devrait être beaucoup plus grand que ça. Et là, on voit qu'elles sont toutes bien rangées à la même distance les unes des autres. Normalement, plus on s'éloigne, plus les planètes sont éloignées les unes des autres. Donc on aurait les quatre rocheuses qui seraient vraiment toutes proches, et au fur et à mesure, ce serait de plus en plus haut. Mais c'est la difficulté en astronomie, c'est vraiment de représenter avec les bonnes échelles.
C'est toujours compliqué en effet, oui.
Donc ça c'est notre partie, donc vraiment on a zoomé de l'Aniakea, donc cette grande structure jusqu'au système solaire, jusqu'à nous un peu. Et après la suite, du coup là on va partir de la Terre et on va voir comment aller de plus en plus loin. On tourne et on se retrouve devant une vitrine un peu spéciale. C'est une histoire locale en fait, c'est un ancien directeur du Parc aux Étoiles, Audouin Dollfus, qui était passionné d'astronomie, mais qui avait un problème pour observer le ciel, c'est les nuages, c'est l'atmosphère hein, qui va donner des mauvais résultats. On va avoir des images qui ne sont pas super. Du coup, il ne s'est pas embêté. Il a gonflé plus une cinquantaine, 150 ballons d'hélium, Hein, du coup, un gaz qui va flotter sur l'air, il va accrocher sa nacelle à ses ballons et il va décoller au-dessus des nuages. Et du coup, de cette nacelle, hein, il va pouvoir observer surtout les planètes, hein, Mars, la Lune. Hein, il sera un des premiers à découvrir, à faire l'hypothèse de l'ancienne présence d'eau sur Mars. Parce que on connaît sa composition. Mars est faite de fer en grande partie, à sa surface, de poussière de fer. Et ce fer est devenu orange avec le temps. C'est parce que c'est de la rouille, du coup. Et donc, du coup, alors c'est pas vraiment lui qui a fait la découverte en premier, c'est juste que c'est une nouvelle technologie qui va engendrer des nouvelles découvertes qui vont être un peu simultanées. Mais du coup, c'est une histoire locale. Bon, ça, c'est pas très pratique pour aller dans l'espace. Hein? Parce que flotter sur l'air, c'est bien pratique, mais quand il n'y a plus d'air, ça ne sert plus à rien.
En tout cas, la représentation est jolie. On voit ces 150 ballons qui sont représentés, avec en dessous ce qui est peut-être une sonde, et puis les nuages de l'atmosphère. On voit que ça part en hauteur. Quoi.
C'est la nacelle dans laquelle il était, donc il est vraiment dans une petite nacelle. Alors, il faisait ça pour des observations d'astronomie, mais il faisait ça aussi pour le spectacle, hein, à des fêtes de village ou des choses comme ça, hein, ça impressionne toujours. Bon, 2 ans plus tôt, là c'est en 1959, 2 ans plus tôt, on a trouvé un moyen quand même plus simple pour aller dans l'espace, c'est du coup les fusées et le premier satellite envoyé dans l'espace, Sputnik, qui a présenté devant nous, donc du coup juste une petite boule avec 4 antennes, hein, qui diffusait un petit bip bip, un petit signal, mais qui servait surtout à montrer qu'on pouvait envoyer des choses dans l'espace.
C'était le lancement de la conquête spatiale, en fait.
Exactement. Et ça n'a fait que continuer, avec de l'autre côté, en face de Sputnik, on a aussi, du coup, quelque chose qui a été envoyé dans l'espace par les Russes, hein, à l'ancienne Russie, donc l'URSS. Et là, du coup, c'est la mission Vostok, avec Yuri Gagarin à l'intérieur, hein, qui a été le premier homme à aller dans l'espace, qui a été suivi, du coup, 2 ans plus tard, par Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Donc ça a été les grandes victoires de la Russie, et les États-Unis en face étaient un peu jaloux, ils voulaient leur première fois aussi. Et du coup, 1969, là on a la première mission sur la Lune qui est représentée juste après, donc avec le module lunaire et nos 2 astronautes qui plantent le drapeau. Hein, on n'a pas le 3e qui est représenté dans cette vitrine, c'était Collins qui lui restait en orbite autour de la Lune, histoire de les récupérer à la fin de leur escapade.
Exactement, donc on reconnaît bien sous nos yeux le fameux LEM qui leur a permis de se poser sur la Lune et de repartir bien sûr ensuite en direction de la Terre.
Alors au Parc aux Étoiles, on a tenu à ne pas oublier l'Europe, hein, parce que nous aussi on a fait des premières fois. Et par exemple, juste en face du LEM, on a une mission qui allait se rapprocher d'une comète. Hein. L'Europe aussi a fait des premières fois, et les comètes c'est quand même plutôt important, hein. Les comètes c'est là où on a de la présence d'eau. Hein, donc si on a de la présence d'eau, peut-être que ça serait l'eau qui serait à l'origine de la vie sur Terre, donc c'est quand même quelque chose. Mais on peut aller encore plus loin avec les missions spatiales, mais pas avec des humains. Là, ça va être avec des robots et avec des atterrisseurs. Hein, le premier atterrisseur qui allait sur Mars, il était... Alors le premier atterrisseur qui ne s'est pas écrasé et aplati sur Mars, c'est Viking 1, donc un atterrisseur qui était américain. Qui avait une petite pelleteuse, hein, on la voit sur notre vitrine, parce que l'intérêt d'aller sur Mars, c'est de voir est-ce qu'on trouve de la vie sur Mars. Alors, on a mis du temps, mais dernièrement, la NASA nous a annoncé qu'il y avait peut-être des bons indices pour des traces de vie sur Mars. Mais ça, c'est parce qu'on a envoyé des rovers, parce que là, le premier atterrisseur, on voit, il n'y a pas de roue, hein, il atterrit, il ne bouge plus. C'est pas très pratique, ça se trouve il y a de la vie 2 mètres plus loin. Du coup après l'étape suivante ça a été d'envoyer des rovers, donc avec des roues, qui sont capables de se déplacer, et on a Sojourner, donc le premier rover, pareil américain, qui est accompagné de Pathfinder, le trouveur de chemin. Hein. Hein, c'était pas vraiment un robot qui servait à analyser le sol, c'était juste histoire de tester, est-ce qu'on peut rouler sur Mars, hein. On voit qu'il est recouvert de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, ce qui n'est pas très efficace parce que sur Mars on a de la poussière et la poussière vient se poser sur les panneaux et au bout d'un moment il y a tellement de poussière et personne pour aller nettoyer les panneaux que la source d'énergie finit par s'arrêter. On envoie des satellites, des rovers nucléaires, c'est bien plus efficace.
On continue notre visite, Guillaume Froment.
On va continuer un peu pour aller plus loin. Après, après Mars, si on va aller plus loin, on arrive aux planètes gazeuses. Alors on ne peut pas envoyer d'atterrisseurs sur les planètes gazeuses. Du coup, on a 2 solutions. Soit on envoie une sonde qui va juste survoler ces planètes gazeuses pour prendre des photos, Hein. Il y en a même la sonde Cassini qui va finir par s'écraser, alors pas s'écraser, mais qui va rentrer dans l'atmosphère du coup de la planète de Saturne. Ou alors, on peut avoir des atterrisseurs qui vont atterrir sur les lunes de ces objets. Hein. Parce que, bah, autour, comme nous, on a la Lune, Saturne, Jupiter ont beaucoup plus de lunes que nous. Nous, on n'en a qu'un seul, mais il y en a bien plus sur Saturne. Et encore, aujourd'hui, on en découvre encore. Et bah, on peut essayer d'aller atterrir sur ces objets et de découvrir des choses plutôt intéressantes, comme par exemple des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ça nous permet de faire de l'énergie, par exemple, hein, de faire l'électricité. Donc on pourrait directement aller chercher les hydrocarbures sur ces lunes pour peut-être continuer le chemin, hein, de faire le plein directement sur les lunes de Saturne. Ce serait plutôt pratique. Le plus loin qu'on a réussi à faire, c'est les sondes Voyager. Hein, les sondes Voyager, elles ont survolé du coup Saturne, Jupiter. Et ce sont les deux seuls objets qui ont réussi à sortir vraiment du système solaire. Hein. Ça a été un long voyage de plusieurs dizaines d'années, mais ces deux satellites, ces deux sondes, Voyager 1 et 2, sont encore très loin d'atteindre l'étoile la plus proche de nous, qui n'est pas le Soleil, qu'on appelle Alpha du Centaure. Hein. Faut bien se rendre compte que la lumière, elle met du temps à voyager. Par exemple, la lumière, quand elle sort du Soleil, elle met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. C'est rapide, 8 minutes, mais bon, il y a quand même une sacrée distance. Par contre, la lumière de cette étoile, qui est la plus proche de nous après le Soleil, là, elle va mettre 4 ans. Donc c'est pour donner une petite idée de différence de distance entre voyage entre le Soleil et la Terre et entre l'étoile la plus proche après. Et c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes autour de ces étoiles, hein, ce qu'on appelle les exoplanètes. Donc c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. En moyenne, il y a une planète qui tourne autour de chaque étoile. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a beaucoup plus. Mais du coup, ce serait intéressant et ce serait peut-être des planètes qui seraient peut-être propices à la vie. Mais bon, aujourd'hui, on oublie quasiment totalement d'aller visiter une autre étoile. Ce qu'on aimerait déjà bien faire, c'est peut-être retourner sur la Lune. Parce que la Lune, on n'y va plus depuis un petit moment. Mais du coup, à l'époque où ce musée a été fait, on avait plein d'idées pour retourner sur la Lune. Pourquoi retourner sur la Lune ? Par exemple, pour envoyer des fusées depuis la Lune. Vu que la Lune est plus petite, bah du coup, elle a une masse plus faible. Hein. Du coup, pour s'en échapper, ça va être plus simple. On voit les vidéos des astronautes. Au lieu de faire un petit saut, ils font un grand bond. Hein. Ils mettent pas spécialement plus d'énergie que sur Terre. C'est juste qu'ils sont moins attirés par la Lune. Du coup, ça marcherait pareil avec une fusée. En plus, sur la Lune, on n'a pas d'atmosphère. Du coup, notre fusée, quand elle va décoller, elle va pas frotter dans l'atmosphère et être ralentie. Elle va pouvoir partir directement. Donc, on pourrait construire des fusées beaucoup plus petites directement sur la Lune. On est encore très très loin de cette étape, hein. Il y a encore du chemin. Déjà, on aimerait bien retourner sur la Lune et essayer d'y vivre un peu plus longtemps. Donc ça consiste à, pour l'instant, sur notre vitrine, on voit que les humains ont creusé dans la roche pour créer des locaux avec de la végétation et tout ça. Pareil, ça c'est plus du tout envisagé, hein. Creuser dans la roche de Mars, de la Lune, c'est très compliqué. On va avoir plutôt tendance à tourner autour de la roche plutôt que le forêt qui s'enfonce correctement. Du coup, ce serait plus des grosses boîtes qu'on enverrait sur la Lune avec tout ce qu'il faut à l'intérieur.
Genre de préfabriqué, quoi.
Exactement.
Guillaume Froment, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission À toi les étoiles, à tout de suite.
IDFM Radio, 98 FM.
Retour ici au Parc aux Étoiles pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que c'est la formule de l'été, la seule de cet été 2025. Je suis aujourd'hui à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, en Île-de-France, en compagnie de Guillaume Froment, qui est médiateur scientifique. On poursuit cette visite.
On a la fameuse planète Mars, hein. Ça serait l'objectif, le premier homme sur Mars, hein. Beaucoup de gens en parlent, mais on en est encore loin. Mars, on n'y va pas quand on veut. Hein, il y a une fenêtre de tir tous les ans à peu près, parce que des fois, Mars et la Terre se retrouvent chacune d'un côté du Soleil. Du coup, là, le chemin il va être trop long. Du coup, le mieux, le plus court, entre grandes guillemets, c'est plusieurs mois, hein, une fois par an. Et une fois qu'on est dessus, il faut attendre un an avant de revenir. Donc, pendant un an, il faut être autonome. Pour être autonome, il nous faut de la nourriture, de l'eau et une zone pour retenir l'oxygène. Donc ça, est-ce qu'on l'envoie en avance? Est-ce qu'on l'envoie tout en même temps? Il y a beaucoup de questions qui se posent et on n'est pas encore en capacité scientifique de régler toutes ces questions. Hein, donc pour l'instant, ça reste surtout de l'imaginaire. Parce que le gros problème, en fait, avec la conquête spatiale, c'est le carburant. Hein, nos fusées, elles ont du carburant, hein, c'est même une énorme partie de notre fusée. Hein. Ce qu'on veut vraiment envoyer, ce qu'on appelle la charge utile, c'est qu'un tout petit morceau en haut de notre fusée, tout le reste, c'est des réservoirs à carburant. Si on veut aller plus loin, il faut rajouter plus de carburant. Mais notre carburant, il a une masse qu'il faut envoyer dans l'espace. Donc assez vite, on est limité en fait par la taille de notre fusée. On peut essayer d'améliorer nos moteurs, d'améliorer des carburants plus, d'avoir des carburants plus efficaces. Mais au bout d'un moment, on va vite être limité parce que notre fusée va devenir trop lourde. Du coup, on réfléchit à d'autres manières de se déplacer dans l'espace et ça nous amène à notre dernière vitrine en intérieur sur les voiles solaires en fait. Ce seraient des grandes voiles qu'on déploierait, un peu comme des origamis. Hein. Il y a des scientifiques qui travaillent qui s'acharnent sur ça. Comment avoir une voile gigantesque qui est rangée dans un tout petit compartiment. Donc une voile qui se déploierait. Et la lumière du soleil viendrait taper contre cette voile qui la ferait avancer tout doucement. Alors, pour l'instant, le seul truc qu'on a réussi à faire, c'est déployer cette voile. On n'a pas encore vraiment réussi à l'utiliser. On réfléchit aussi à tirer des lasers depuis la Terre sur ces voiles pour les faire avancer. C'est pas encore très efficace, c'est pas encore au point. Hein, mais ça pourrait servir, par exemple, pour dévier un astéroïde qui viendrait s'écraser sur Terre, hein, histoire de finir autrement que comme les dinosaures. On accrocherait une grande toile à cet astéroïde. Alors, il faut réfléchir comment l'accrocher, parce que c'est jamais très solide, un astéroïde. Mais si on arrive à l'accrocher, et du coup, ça pourrait la dévier, sans lui faire demi-tour, la dévier juste ce qu'il faut pour qu'elle évite la Terre.
Justement, Guillaume Froment, on a une représentation d'un astéroïde avec un espèce de voile et qui est en train de comme être attiré justement pour être éloigné de la Terre.
Exactement. Mais bon, hein, les missions spatiales, c'est quand même quelque chose qui est très limité, hein, rien que par les distances, qui sont vraiment gigantesques. Hein, si on imaginait une mission habitée jusqu'à des étoiles, on serait sur des milliers d'années de voyage, parce qu'on est loin d'aller à la vitesse de la lumière. Donc du coup, il faudrait imaginer une civilisation qui est capable de rester dans un tout petit vaisseau, hein, et qui reste pendant des années, qui se dit pas, bah tiens, si on faisait demi-tour finalement, qui garderait à travers les générations, donc c'est vraiment quelque chose de compliqué à imaginer.
Guillaume Froment, juste une chose, vous parliez tout à l'heure des missions lunaires, on a quand même Artemis.
On a quand même Artemis, mais on a un contexte géopolitique un peu compliqué, hein, parce que ça coûte très cher, les missions spatiales. Du coup, en fonction de comment les pays s'entendent plus ou moins bien, on va avoir des budgets qui sont plus ou moins grands. On voit que le budget de la NASA a quand même beaucoup réduit. On a la participation européenne qui est un peu remise en question par le gouvernement américain. Est-ce que si l'Europe ne participe pas financièrement, est-ce que du coup les astronautes européens seront invités? C'est pas sûr. Donc c'est très très incertain sur comment ça va se développer.
Affaire à suivre donc, Guillaume Froment. On poursuit cette visite, on est à l'extérieur et puis vous m'emmenez donc dans une coupole. Parlez-nous un peu de cette coupole et puis de l'instrument qui est en dessous.
Donc juste à l'intérieur de notre coupole, en fait, on a la grande lunette, donc la lunette à poil, hein, parce que ça vient d'un don de monsieur à poil en 91 qu'il a donné à la Société Astronomique de France. Et du coup, on l'a installé au Parc aux Étoiles. Hein, mais des instruments comme ça qui font plus d'une tonne, on ne peut pas les rentrer à l'abri la journée. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on construit un bâtiment directement autour pour la protéger. Et donc c'est tout un système pour ouvrir cette coupole, hein, qui est en forme de dôme et qui va venir protéger notre lunette, hein, parce qu'en fait on va avoir un cimier, hein, qui peut remonter derrière la coupole grâce à une manivelle qui est juste derrière, et du coup ça va nous faire une ouverture sur le ciel. Alors pas une ouverture complète, du coup cette ouverture, il va falloir la faire tourner, hein. Donc on a une grande grand mât en métal qui est très froid, je pense, et qui permet de faire tourner toute la coupole au-dessus de nos têtes. Donc, quelque chose d'assez impressionnant. C'est une lunette avec une grande lentille au devant. La lumière va rentrer devant et on va pouvoir observer. Au Parc aux Étoiles, surtout, ce qu'on va faire, c'est des observations du soleil, parce que nos visites sont surtout la journée et que utiliser la nuit la grande lunette, on essaie de le faire de temps en temps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On a des instruments plus petits et plus pratiques à déplacer. Donc on va observer le soleil, quand il est visible, hein, pas forcément assuré, et on ne peut pas l'observer directement comme ça, on est obligé d'utiliser un écran pour projeter le soleil. Hein. Faire bien attention avec l'observation du soleil, chose qui est très dangereuse. On a notre petite planche qui permet de montrer les effets du soleil avec des petites taches noires dessus. Ben ça, c'est l'endroit, quand on place la planche là où devrait être notre œil, en regardant le soleil, ben on voit que la planche prend feu directement. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de dangereux, on ne veut pas que ce phénomène de brûlure arrive au fond de notre œil.
C'est très bien de montrer ça, oui, justement, les risques. Donc il faut imaginer notre pupille à la place, et ça montre un peu les risques.
Ça fait vite, ça refroidit vite les gens. Les gens n'ont pas envie de regarder, et ne passent pas devant de peur de prendre feu d'un coup. Donc ça permet d'apprendre un peu les bases. Juste derrière, ce qui est caché derrière, pour pouvoir se déplacer, c'est l'ancien moteur en fait, de cette lunette. Un moteur qui date qui ne nécessitait pas d'électricité à l'époque. Donc on a plusieurs poids ronds, hein, les poids des haltères, hein, comme on trouve sur les haltères, qui sont suspendus en hauteur, et quand on les lâche, bah, ils vont commencer à descendre tout doucement. Ce mouvement va entraîner plein d'engrenages qui vont créer un mouvement, hein, ça va commencer à tourner. Alors il faut que le mouvement il aille à la bonne vitesse. Donc du coup on a une sorte de petite cloche avec des petites ailettes qui vont pouvoir s'écarter ou se rapprocher en fonction de la vitesse et qui vont ralentir ou permettre d'accélérer notre mouvement pour qu'on ait pile poil la bonne vitesse qu'il nous faut pour aller à la vitesse en fait de la rotation de la Terre, histoire de la compenser et de suivre en fait du coup nos étoiles ou ce qu'on a envie d'observer. La Lune. Alors on regarde rarement directement une étoile avec lunettes, ça va plutôt être la Lune, les planètes.
Vous avez fait beaucoup d'observations avec cette lunette ?
Alors du coup, beaucoup d'observations du Soleil, c'est très intéressant parce que nous, du coup, on voit à quel point il change de forme vite. Alors ils resteront, mais on voit les taches solaires se déplacer. Hein, quand on enchaîne tous les jours les observations, bah, on voit que hop, elle s'est un peu déplacée sur le côté. De temps en temps, j'observe la Lune aussi, on observe la Lune, mais bah, du coup, notre lunette, il faut des fois aller sur un escabeau. Si l'objet est bas, bah, l'oculaire va être vraiment haut, du coup, il faut aller sur l'escabeau. Quand on a du public, 15, 20, 30 personnes, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. À côté de ça, en fait, dans notre musée, on a une petite réserve où là, on a plusieurs télescopes, des télescopes Dobson, donc qui sont assez simples à prendre en main et qui sont beaucoup plus simples à déplacer que cette lunette qui fait plus d'une tonne. Donc effectivement, c'est assez rare que nous, au Parc Austal, on l'utilise. Peut-être plus au club d'astronomie, au CAY, hein, ils ont plus l'occasion peut-être. Mais l'objet en soi est assez impressionnant. Hein. C'est plus un instrument qui est d'actualité aujourd'hui. Il y a plein de défauts. On va pas vraiment pouvoir regarder du ciel profond avec. C'est vraiment pour les planètes, des objets du système solaire. C'est suffisant, mais c'est pas ce qui est idéal.
Ce qu'on appelle le ciel profond, Guillaume Froment, c'est donc les objets qui sont très très lointains.
Exactement, qui ne sont pas dans le système solaire, globalement. Alors, il y a des objets dans le système solaire qui ne sont pas très visibles, même avec un instrument comme ça, hein, parce qu'ils sont soit très loin, c'est déjà assez grand le système solaire. Les ciels profonds, du coup, ça va être les nébuleuses, donc des grands nuages de gaz, ça va être bah, des galaxies, hein, qui sont très, très lointaines. On a plein les amas globulaires. Hein. Bon, je pense que ça pourrait peut-être être observable avec ce genre d'instrument. Mais ce n'est pas idéal. Hein, on a des télescopes qui sont bien mieux pour ça.
Guillaume Froment est mon invité dans cette émission À toi les étoiles et nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est l'émission À toi les étoiles, la formule de l'été, la seule et unique émission de cet été 2025, puisque dans quelques jours nous serons en automne. Je suis aujourd'hui dans le département des Yvelines, plus particulièrement à Triel-sur-Seine, au Parc aux Étoiles, pour vous faire découvrir ce lieu dédié à l'astronomie et à l'astronautique, en compagnie de Guillaume Froment, qui est médiateur scientifique. Guillaume Froment, nous voici en extérieur. J'ai vu que vous aviez des antennes qui sont dirigées vers le ciel. Ce sont des radios. Radiotélescopes ?
Exactement, les radiotélescopes, du coup, c'est des capteurs. Hein. Les lunettes, les télescopes, c'est pour la lumière visible, hein, qu'on utilise avec nos yeux. Et ben, y a la lumière qui n'est pas visible, qui n'est pas captable par nos yeux. Du coup, il faut des capteurs spéciaux. Et du coup, on peut utiliser les radiotélescopes pour la lumière radio. Alors, on va pas vraiment pouvoir observer de source de lumière radio avec nos instruments. Ce qu'on va capter, en fait, c'est des ondes radio qui sont envoyées dans le ciel par une source un peu partout en France. Et bah, quand cette lumière radio va rebondir contre, par exemple, des objets qui passent dans le ciel, comme des étoiles filantes, et bah, on va pouvoir capter ce signal et on va pouvoir compter le nombre d'étoiles filantes. Alors, il faut tout brancher. Hein. Ça, c'est plutôt le Centre Astronomique des Yvelines qui s'en occupe. On n'a pas vraiment les compétences au parc aux étoiles directement pour faire ça. Mais ça peut être sympa. Alors par contre, s'il en manque une pour pouvoir vraiment savoir où se trouve cette étoile filante, on peut juste les compter. Hein, parce qu'on a besoin de 3 antennes pour bien situer l'objet.
Ce qu'on appelle la triangulation.
Exactement.
Dans ce bois, on arrive sur un parcours où il y a des panneaux explicatifs en fait.
Effectivement, en fait, on a une quinzaine de vitrines. Hein, qui sont visibles des deux côtés. Et en ce moment, au Parc aux Étoiles, on a une exposition avec des photos de membres du CAY. Donc le club d'astronomie nous a passé quelques photos et du coup, on a fait une exposition sur ces images qui sont quand même de belles images. Hein, qui font c'est de l'astrophotographie, de la photographie d'astronomie. Et voilà, c'est une de nos expositions. On en a beaucoup. Hein, la dernière était sur les missions spatiales, de construire la mission spatiale. Donc comment assembler notre fusée, qu'est-ce qu'on veut mettre, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on peut aller. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. On en a parlé dans le musée. On en a plein d'autres sur les planètes, tout ça. On en prête aussi des expositions. Hein, on en a beaucoup qui tournent un peu partout sur le territoire.
Guillaume, Froment, vous avez parlé de John. Alors effectivement, vous recevez pendant les vacances scolaires et même peut-être en semaine ou le week-end des jeunes pour des ateliers astronomie.
Effectivement, alors pendant les périodes scolaires, la semaine, on va accueillir des écoles, du coup des groupes de 30 en général, qui vont faire des ateliers et ou des visites. Et certains dimanches, ça va dépendre, certains mercredis, le premier mercredi du mois, dimanche, où on fait des ateliers. Alors des fois, les ateliers, c'est que les enfants, des fois, c'est des ateliers en famille. Hein, dimanche, on fait des séances famille, comme ça, la famille se réunit pour autour d'un projet autour de l'astronomie. Et l'objectif de nos ateliers, c'est vraiment que les enfants, les participants, repartent avec quelque chose. Hein, qu'ils aient une trace de ce qu'ils ont fait, et donc du coup, ils construisent, ils assemblent des choses, ils collent, ils scotchent. Donc ça plaît toujours bien, ça permet un peu, pas juste d'avoir du contenu scientifique, d'avoir un peu quelque chose de manuel autour.
On continue donc ce parcours dans les bois. Guillaume Froment, qu'est-ce qu'on peut rajouter de vos activités dans ce parc ?
Alors, on fait beaucoup d'événements, on participe à des événements nationaux. Là, il y a les journées, il y a par exemple les journées européennes du patrimoine, parce qu'on a des instruments qui sont quand même assez intéressants, qui font partie du patrimoine. On a les fêtes de la science, hein, qui sont aussi un événement national, donc, où tout est gratuit, on fait des activités, des visites sur la thématique de la fête de la science. On a le jour de la nuit, là, pour cette occasion, en fait, c'est en octobre, on se déplace à Poissy, où on fait des observations. On fait des observations ici au Parc aux Étoiles aussi, on a tous les instruments pour faire ça. On a la Megastar Party chaque année, donc c'est notre événement un peu annuel où tous les acteurs de l'astronomie se réunissent au Parc aux Étoiles autour de conférences, d'ateliers, de visites, histoire de se regrouper ensemble. C'est toujours un moment vraiment sympathique avec un petit food truck, tout ça. On a plein d'événements, des spectacles, on a beaucoup de spectacles, on fait de l'art science en fait, donc on mélange l'astronomie et de l'art. On a eu du jonglage, donc autour un peu des mouvements des planètes, vraiment très diversifié sur nos actions. Et on n'est pas qu'au Parc aux Étoiles, on se déplace aussi. On a notre camion qu'on appelle Léonard, donc c'est aussi notre mascotte. Et on se déplace un peu sur tout le territoire pour faire des soirées d'observation, pour aller dans des écoles, pour faire du planétarium. On a un planétarium gonflable qu'on gonfle dans les mairies, dans les salles de spectacle, où on accueille du monde et alors on montre le ciel comme si c'était le vrai ciel. Hein, parce que les nuages nous empêchent des fois de bien voir le ciel.
Léonard, en fait, c'est le moyen de venir vers le public plutôt que ce soit eux qui viennent vous voir au Parc aux Étoiles.
Effectivement, au Parc aux Étoiles, on est en altitude. Il y a une navette qui fait le chemin entre Triel-sur-Seine et donc Lautil, ce petit village qui est en au-dessus de Triel-sur-Seine. Mais bon, c'est pas toujours pratique pour venir. Du coup, le plus simple, c'est que nous, on se déplace. Et c'est quelque chose qui commence à se répandre un peu partout en France, d'avoir un moyen de se déplacer pour aller voir les publics directement. C'est beaucoup plus simple. Pour aller directement à la rencontre du public.
Du coup, nous revenons effectivement à notre point de départ. Nous avons fait donc un petit circuit dans le bois, très agréable. Nous revoici pour la suite de cette émission à Toi les étoiles. On est monté sur le toit de la tour du parc aux étoiles. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent. On voit encore une autre coupole ici, la coupole Audouin-Dollfus.
Oui, du coup, c'est une plus petite coupole, mais qui accueille un instrument bien plus récent, qui est surtout utilisé par du coup le Centre d'astronomie des Yvelines, le CAY. Nous, ici, on ne peut pas vraiment amener du public, donc c'est un peu l'exclusivité, mais ça nous permet d'avoir une belle vue sur tout le parc. On voit qu'on a par exemple un axe qui est en direction du sud, histoire de dégager un peu la vue. Il n'y a pas d'arbres sur cet axe. Alors, les arbres continuent à grandir, mais parce que beaucoup d'objets, surtout les planètes, vont se retrouver souvent au sud, donc du coup, ça nous permet d'avoir une voie dégagée. Et tout au fond aussi, on a un grand espace où là, on n'a pas d'arbres. Alors du coup, c'est là où on va faire nos observations. On a Stade qui fait quand même un peu de lumière à côté, mais on arrive quand même à voir de belles choses. Et c'est aussi notre terrain de décollage pour nos fusées à eau, parce qu'on a un atelier fusée à eau. Du coup, on a de l'espace et on peut y aller à fond sur les pompes à eau. Donc c'est plutôt pratique.
Guillaume Froment, je vois même que vous avez des cadrans solaires.
Effectivement, c'est quelque chose qui est assez simple. Ça permet de parler du mouvement du soleil dans le ciel. C'est assez simple à comprendre et tout le monde l'expérimente tous les jours. Tout le monde voit que son ombre va grandir, va être plus petite, plus grande, va être dans une certaine direction. Du coup, ça permet assez facilement de parler du mouvement du soleil et de l'heure. Donc c'est plutôt pratique. Donc à chaque fois, à la fin de notre petite visite, on se demande quelle heure il est, combien de temps notre visite nous a pris. Alors un cadran solaire, ça ne nous donne pas exactement l'heure sur les téléphones. Il faut faire une petite correction, mais on n'est pas très loin en général.
On va aller faire un petit tour dans la coupole Audouin-Dollfus.
Donc là, on est sur un instrument qui est bien plus court que la lunette qu'on a en bas dans notre coupole.
Pour les connaisseurs, c'est un Miadol LX200.
Donc un tube qui est bien plus grand que aussi notre lunette et qui est sur une monture motorisée en fait, qui va permettre de suivre directement les étoiles et d'aller au bon endroit directement. On voit aussi que à la place de notre œil, on a des caméras. En fait, on va pas pouvoir regarder directement dedans. Ça va passer par des caméras et on va enregistrer les images directement sur un ordinateur. Parfait pour faire de l'astrophotographie du coup. Donc on a une petite coupole qui marche un peu différemment. Là, on a deux volets qui se séparent, un à droite, un à gauche. Mais pareil, il faut faire tourner toute la coupole pour regarder au bon endroit. Donc le moteur du télescope ne suffit pas. Il faut aussi l'huile de coude pour bouger la coupole. Sinon, au bout d'un moment, on verra plus rien du tout.
Oui, tout se fait manuellement également. Quels sont les autres instruments? On y a le Miadol LX200 et ensuite
Alors du coup, c'est des lunettes. On a la lumière qui, c'est le même principe que ce qu'on avait en bas avec la grande lunette. C'est la lumière rentre et modifiée, la trajectoire de la lumière est modifiée par la lentille qui est devant et la lumière ressort derrière. Donc là, vraiment des lunettes qui sont juste plus petites.
Ce sont les lunettes qui ont des appareils, des caméras. En revanche, le Miadol, lui, il y a un oculaire.
Non, on a une caméra. Il y a une caméra aussi qui est juste d'une autre couleur. Mais oui, après, on peut remplacer les caméras par des oculaires. Effectivement, là, on pourrait mettre un oculaire à cette place.
Pour faire une observation directe.
Des instruments qu'on va... Vu qu'il y a un moteur, on les laisse, on les règle, on les laisse. La photo se prend pendant longtemps, en fait, parce qu'on a des objets qui sont très peu lumineux. Ils envoient peu de lumière. Du coup, pour récolter plein de lumière, on prend une photo pendant longtemps. On pourrait aussi agrandir notre tube, parce que plus il sera grand, plus il récoltera de la lumière, un peu comme de la pluie. Si vous voulez récolter de la pluie, soit vous achetez un très très grand seau, soit vous laissez un petit seau sous la pluie pendant des heures et des heures. Construire un grand seau, c'est compliqué, alors que juste laisser un petit seau sous la pluie pendant longtemps, c'est plus simple.
Eh bien voilà, Guillaume Froment, on va profiter d'être à l'abri dans cette coupole, l'abri du vent, pour conclure cette émission à Toi les étoiles. Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs?
N'hésitez pas à venir au parc aux étoiles, donc que ce soit tout le monde l'année. Profitez peut-être de la fête de la science qui arrive début octobre avec des actions qui sont gratuites. Mais après, nous, on reste là tout le reste de l'année, puis on se déplace, donc il faut se renseigner sur nos mouvements, sur notre Facebook ou sur notre billetterie.
Et puis comme notre émission se termine, il est bientôt 14h, nous sommes dimanche, vous êtes ouvert pour les journées du patrimoine, jusqu'à quelle heure?
Alors malheureusement, les journées du patrimoine, on est déjà complet.
Ah, voilà. Alors donc,
c'est pour les fêtes de la science.
Alors c'est pour les fêtes de la science, mais en revanche, malheureusement, pour les journées du patrimoine, c'est complet. Merci Guillaume Froment de m'avoir reçu ici au Parc aux Étoiles, de nous avoir fait découvrir ce magnifique endroit. Vous avez un site internet, une adresse?
Effectivement, on a un site internet Parc aux Étoiles et on a aussi la billetterie. Donc, c'est là où on réserve les différentes séances de visite. En fait, on a le parc qui est ouvert si jamais vous voulez pique-niquer à l'intérieur. Mais si vraiment vous voulez avoir une action, c'est toujours sur notre billetterie, billetterie.parcauxetoiles.fr. Donc, tout passe par la billetterie.
Voilà, et www.parcauxetoiles.fr, je pense.
Oui, c'est ça. Ça, c'est du coup notre site où on a un peu plus toutes nos actions. On a deux sites différents. On a un site pour le parc aux étoiles et on a un site pour réserver les places sur notre les places au parc aux étoiles en fait.
Grand merci en tout cas de m'avoir accueilli ici au parc aux étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio. Profitez bien des journées du patrimoine et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission À toi les étoiles. Ce sera le dimanche 19 octobre de 13h à 14h, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Merci pour votre fidélité. La marraine Danielle Briot et le parrain Jean-François Perrin se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes journées du patrimoine, un bon dimanche et rendez-vous au mois d'octobre. Au revoir à tous. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.